Merci beaucoup pour ton intervention. C'était hyper stimulant et ouais, ça fait écho à énormément de choses. Moi, j'ai une question assez concrète. Tu as parlé d'une lutte syndicale qui a duré 6 mois. C'est hyper impressionnant et j'aimerais bien que tu reviennes sur comment ça s'est passé concrètement cette lutte, comment vous avez tenu, comment vous vous êtes organisé. Parce que pas d'hôpitaux pendant 6 mois, ça paraît énorme. Donc j'imagine que ça repose sur une répartition, une collectivisation du travail de soins. Et ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que ça peut intéresser d'autres gens dans la salle aussi. Merci beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Pierre Ngarbadim. Les élections au Tchad, c'est le 6 mai. Je veux avoir de nouvelles. Il y a des opposants aussi qui participent. Donc comment vous trouvez ?
Bien. Alors écoutez, c'était très bien. Mais j'ai quand même quelques questions et quelques réserves. Je commence par ce qui me semble très bon, c'est quand vous incitez, et je pense que vous adressez non seulement à l'Assemblée, à tout un chacun d'entre nous, vous incitez les citoyens français à interroger le gouvernement français sur sa politique africaine et ce soutien à l'armée, à l'intervention d'éléments de l'armée française en Afrique. D'accord. Mais alors, moi, j'ai une suggestion très simple. Chacun d'entre nous est citoyen dans sa circonscription électorale. Et vous avez, pour chaque député, vous avez des permanences, parce qu'ils ont des collaborateurs, qui peuvent recevoir ces citoyens. Et je suggère en conséquence que plusieurs d'entre nous allions interroger les députés et demander à ce qu'ils posent des questions écrites et orales aux différents ministres concernés pour justement interroger sur la pertinence, peut-être plus que de l'intervention de l'armée française en Afrique, la pertinence de la politique dite de coopération et de développement. Parce que vous avez très bien dit qu'on réduisait, enfin, le gouvernement français réduisait d'autorité certaines, ou contribuait à réduire d'autorité certains, comment dirais-je, certaines subventions à l'Office de développement, enfin bref, vous avez donné des exemples précis, je crois. Et réduction de 30% ou de 50%, voilà. Donc ce que je souhaiterais beaucoup, c'est qu'on pose des questions écrites là-dessus, et je vais vous donner mon adresse et mon numéro de téléphone. Si vous me faites quelques propositions de questions écrites, je m'engage à aller chez mon député à la circonscription de Colmar, et à insister lourdement pour qu'il pose des questions adéquates ad hoc au gouvernement français. Et je vous signale que je suis l'un des plus grands contributeurs des questions écrites depuis bientôt 50 ans. Donc, voilà. Première chose. Pardon.
Mais j'y vais comme le micro est là. Ça va, oui, ça élargit. Non, mais moi, si vous voulez, c'est profiter. Je vois bien l'importance du mouvement syndical et c'est quand même hyper intéressant tout ce que vous nous avez expliqué, que vous arrivez malgré la dictature et malgré le soutien de la France à cette dictature, enfin de la France, des gouvernements français, pas du peuple français, à cette dictature depuis 30 ans. Si vous n'avez pas une répression qui est très très difficile et qui fait que vous êtes souvent en prison, arrêté, etc., sur l'importance de la répression qui vous permet malgré tout de maintenir cette mobilisation. Après, j'ai deux questions, mais qui est plus sur la situation du Tchad. Un, quels sont les effets de l'arrivée des réfugiés du Soudan, puisqu'on sait qu'il y a 8 millions de déplacements en ce moment au Soudan et que depuis le Darfour, il y en a plusieurs centaines de milliers qui sont aujourd'hui au Tchad. Comment vous pouvez leur porter secours ou être solidaire avec eux ? L'autre question, c'est qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'on dit qu'il y avait un mouvement dans le nord du Tchad après l'assassinat d'Idriss Déby qui aurait pu assurer une relève. Qu'est-ce qui en est de ce mouvement? Et il a été évidemment ignoré ou même réprimé par les autorités françaises. Et je terminerai quand même par un petit vent d'optimisme en disant que peut-être que cette conférence, et vous nous mobilisez, mais après ce qui est arrivé au Mali, au Burkina, au Niger, et après la victoire de l'opposition au Sénégal aujourd'hui, eh bien je pense que peut-être c'est les derniers temps de cette présence militaire impérialiste française au Tchad que nous sommes en train de vivre. Certes, il reste le Cameroun et la Côte d'Ivoire, mais c'est une autre histoire.
Merci. Merci pour toutes vos questions. Déjà, par rapport à la grève de 6 mois, lorsque nous sommes allés, on a instauré le service minimum dans les hôpitaux, notamment au service des urgences et le service de l'enfance pour les vaccinations, le service de dialyse aussi. Mais malheureusement, les travailleurs qui y allaient, puisque pendant les 6 mois, on n'a pas eu de salaire, et le salaire qui devrait normalement être dû était déjà coupé de 50%. Donc, on devrait au moins s'envoyer nous donner les 50%, mais malheureusement, ça fait 6 mois. Donc, du coup, progressivement, les services se sont détériorés et certains hôpitaux ont fermé. Ils ont fermé et les médecins qui étaient avec nous dans la plateforme qu'on avait mis en place se relayaient tant bien que mal, tant bien que peu, pour faire le nécessaire. Mais malheureusement, il n'y avait même pas le nécessaire pour travailler, parce que même les gants, l'alcool, les premiers kits qui devraient être utilisés, il n'y avait pas dans les hôpitaux, puisque l'État n'avait pas à fournir les hôpitaux. Et on a compté sur la bonne volonté des citoyens, des populations. C'était souvent des femmes qui vendaient à la sauvette, qui passaient laisser des sous à la bourse parce qu'on avait laissé des points de collecte au sein de la bourse du travail, qui chacun manifestait sa solidarité. Et on pouvait mobiliser le matériel médical qu'on pouvait pour certains hôpitaux, pour surtout les urgences. Mais après, cela s'est détérioré. Mais au bout de 6 mois, le gouvernement a quand même intervenu. Et durant les six mois de grève, parce que c'était 6 mois de grève, mais les mesures antisociales que le gouvernement avait prises ont fait trois ans et demi. Et durant les 3 années et demi, quand après le 7e mois, ils ont rétabli les 50% de salaire, le gouvernement a continué par suspendre les 50% des subventions, des salaires coupés aux hôpitaux et aux fonctionnaires. Et donc, du coup, il a fait des économies au bout de 3 années. Et nous avons demandé que, mais durant 3 années, quel est le montant réel que le gouvernement a économisé sur nos salaires, sur les subventions dues aux hôpitaux et aux universités? Quels sont les secteurs dans lesquels ils ont utilisé cet argent? Comment est-ce que cela a eu un impact dans la vie des travailleurs? Malheureusement, nous ne pourrons pas avoir des réponses à cette question-là. Et le gouvernement s'est engagé à pouvoir rembourser cela. Et nous avons repris le travail parce que malgré cela, ça a eu beaucoup d'impact sur la vie des travailleurs. Parce que au moment où on était en grève, ils ont décidé de restreindre le droit de grève. Et la loi 032 qui avait modifié le droit de grève, nous l'avons attaqué auprès de la Conférence internationale du travail et en déposant une plainte contre le gouvernement français. Et grâce à la mobilisation des organisations internationales, au bout d'une année, on a eu les conclusions de la Conférence du Bureau international du travail qui a recommandé que l'État puisse faire la relecture de cette loi. Cela suppose l'annuler. Et jusqu'à aujourd'hui, cette loi n'a pas été annulée. Mais bon, notre plainte est toujours là. On espère arriver quand même au bout de cette grève. Mais ça a été la grève la plus difficile pour nous. Il fallait voir à quel point les personnes les plus démunies étaient celles qui nous apportaient du repas, des médicaments, de l'argent, des habits. Et apportaient même les soins à des personnes qui venaient solliciter sur le site de collecte de tous ces fonds-là. Mais ça nous a permis d'avoir quand même un élan de solidarité parce que nous sommes conscients de la souffrance des uns et des autres. Et quand des événements pareils arrivent, la solidarité ne manque pas de se faire savoir. Par rapport aux prochaines élections, les élections, elles se tiendront. Qu'on le veuille ou pas, le processus est enclenché et fait de telle sorte que Mamadou Kaka soit élu. Ce n'est pas une élection parce que si c'était les autres démocraties comme celle du Cameroun, du Bénin, on sait qu'ils vont faire, ils vont bourrer les urnes, ils vont modifier les listes, ils vont falsifier les documents. Mais chez nous, le processus, il est déjà direct. Je me rappelle la semaine dernière, quand j'étais à Nantes, il y a une maman, lorsqu'ils étaient en Assemblée générale, elle m'appelle, elle me dit, mais est-ce que je ne peux pas dire à Mamadou Kaka, le président, là, que pourquoi il n'organise pas une conférence de presse et il se déclare auto-président? Et puis, il nous épargne de contestations, parce que quand il va organiser les élections, nous, on va boycotter, on va appeler les gens à ne pas voter, et on va nous arrêter encore, donc ça nous fera trop de travail. J'ai dit, mais bon, on va quand même suivre ça de près avec lui, mais il nous aura sur son chemin et on lui fera comprendre. Par rapport aux opposants, les opposants qui étaient... Parce que le seul opposant crédible était Yaya Dillo, qui est le cousin de Déby, qui lui, il était du clan quand même. Il était cousin direct à Déby, mais il a été assassiné de la manière la plus sauvage par nos militaires qui ont assiégé son domicile au bout de 2 jours. Et puis finalement, ils l'ont abattu à bout portant et il est décédé. Et c'était le seul opposant politique avec qui nous, au niveau syndical, on avait travaillé. Et nous avons même voulu apporter notre soutien à sa candidature s'il était président. Mais malheureusement, c'était l'homme à abattre. C'était la seule personne qui gênait dans le processus. Pour les autres opposants, il y a un autre qui est également du clan des Déby, mais qui s'est vu rejeter la candidature au motif que sa mère n'est pas d'origine tchadienne. Et lui, il a reçu plutôt l'accompagnement des acteurs politiques de l'opposition crédible. Et finalement, sa candidature a été rejetée. Donc du coup, les seuls qui restent sont les opposants, les opposants accompagnateurs, parce qu'il faut quand même des gens pour l'accompagner, pour dire qu'on a eu des élections. Et ils ont sorti même déjà la liste des candidats par ordre de vote, mais c'est comme une liste de tirage qu'on a donné le premier et le dernier sur l'ensemble des 10 personnes. Et les élections se feront. Il y a aussi l'autre opposant qui a récupéré toutes les tensions populaires, les revendications sociales et les a fédérées au niveau de son parti en créant le parti Les Transformateurs, qui était vraiment le parti de la jeunesse. Il était considéré par beaucoup de jeunes comme le Sonko du Sénégal, mais qui malheureusement a décidé de rejoindre le gouvernement. Il a été nommé Premier ministre et il est candidat aussi aux élections. Donc du coup, on ne sait pas ce qui va se passer, mais le connaissant, moi personnellement, je sais qu'il va appeler ses militants à voter le Mamadou Kaka, là, parce que c'est aussi ça ce que fait le pouvoir, la dictature. C'est l'achat de conscience, le trafic des influences, d'influence. Et chacun, ils ont investi assez de moyens pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait des difficultés pour lui d'aller au terme de son élection. Et il faut qu'il organise les élections parce que la transition initiale qui devrait durer 18 mois, on est à 3 ans et demi. Et donc, il faut qu'il ait un langage diplomatique pour faire genre devant la communauté nationale et internationale, pour dire que nous sommes un pays démocratique. On quitte l'appellation de transition militaire en état pour être une république en bonne et due forme et rentrer dans la liste des pays démocratiques et également avoir notre place sur l'échiquier international auprès des autres pays pour effectivement bénéficier de la globalisation. Mais ça ne résout pas nos problèmes. Donc, c'est une élection comme une autre. Parce que je l'ai dit dans mes propos que les élections servent plutôt à légitimer les dictatures. Parce que si c'était réellement dans l'intérêt des peuples, dépourvus de tout soutien, je pense que c'était au peuple de choisir. Mais lorsque c'est organisé dans ces conditions, c'est juste pour pouvoir permettre à la dictature de s'enraciner, de se durcir et d'obtenir toutes les lettres de noblesse de la dictature qu'il lui faut. Par rapport aux interrogations des élus locaux, à Angers, le député de Angers, il siège au niveau de la commission de l'Assemblée nationale sur les questions de défense. Je ne sais pas quelle est l'appellation réelle, mais il y a une commission sur les questions de la défense au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce député y siège. Et au niveau du Parlement européen, il est le secrétaire parlementaire des questions militaires de l'Union européenne. Je me suis posé la... Parce que le groupe de suivi l'a rencontré, lui a posé cette question et qu'il a répondu de la manière politicienne la plus accrue. Mais j'ai posé la question de savoir quel est son background. On m'a dit que c'est un pompier. Bon, s'il est pompier, les questions élémentaires, il doit savoir. C'est que les affaires militaires nécessitent assez de ressources. Et ils sont financés sur les fonds publics français. Mais lorsque les dépenses militaires sont élevées par rapport aux dépenses sociales, cela devrait s'interroger. Donc, il n'est pas question à ce que le parti de la République En Marche puisse identifier les personnes qui vont poser les questions fâcheuses ou prendre les décisions qui vont influer les dépenses militaires, parce qu'au finish, c'est l'élément catalyseur dans la politique étrangère de la France. Donc, il faut des personnes aussi qui sont moins regardantes sur ces questions-là. Donc, il faut tenir compte de cela pour effectivement trouver le bon député qui va poser les bonnes questions. Ils interpellent l'Assemblée nationale, mais le contrôle n'est pas effectif parce que les groupes parlementaires aussi ont un réseau bien précis qui s'entraident les uns et les autres. Donc, du coup, ça ne nous permet pas de poser les bonnes questions ou d'avoir le contrôle parlementaire le plus effectif. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, Donald Trump a pu faire face à la justice tout simplement parce que l'Assemblée nationale et le Sénat ont pris la responsabilité. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces questions-là, lorsque le budget national de l'État français est discuté, et pensez-vous que les amendements posés par les députés peuvent apporter des éléments de réponse pour la réduction du budget de la défense française? Ça, c'est des questions qu'il faut poser, mais il faut continuer. Il faut rencontrer ces élus locaux, ces députés-là, pour qu'ils soient inquiétés. Et ils finiront toujours par poser les bonnes questions. Par rapport aux répressions syndicales, ça fait aussi ça, notre rôle en tant qu'organisation, c'est que nous ne devons pas nous taire devant les lois injustes. On doit s'opposer de la manière la plus énergique parce que c'est notre devoir citoyen et c'est notre devoir de mémoire. Il y va de notre dignité parce qu'au mépris de toutes les valeurs citoyennes que nous défendons, nous avons une vie qui peut être prise d'un moment ou un autre. Nous avons des camarades qui sont décédés et des leaders qui sont en... La prison pour nous, c'est un aller et venir parce qu'on sait que c'est... On s'y attend, mais on a aussi nos militants qui sont derrière nous, qui peuvent nous apporter le soutien moral nécessaire. Et au niveau international, nous avons aussi des organisations sous-régionales, internationales, qui nous soutiennent. Par exemple, en 2022, nous avons organisé une marche pacifique pour demander le départ de la France. Et au terme de la manifestation, nos leaders syndicaux, avec d'autres manifestations, ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés autour de 21 heures et le lendemain, ils sont déportés dans un lieu de détention inconnu. Et quand on a commencé à alerter, ils les ont ramenés au commissariat avant de les déporter dans une maison d'arrêt à 300 km de N'Djamena, sans que leur date de procès ne soit fixée. Et ils les ont amenés Katimini devant le procureur juste pour leur notifier la date d'audience. Ils ont été déportés à Korotoro. Et malheureusement, parce qu'en N'Djamena, tout le monde était mobilisé pour aller les voir au niveau de la maison d'arrêt. Ils ont bloqué tout le quartier, mais ils les ont plutôt déportés à Korotoro. Et ce qui est bizarre, à Korotoro, c'était les villageois qui ont cotisé, qui ont apporté de la nourriture, des médicaments, parce que mon secrétaire général, par exemple, c'est quelqu'un qui est très malade. Donc, ils ont cotisé des médicaments, tout ça, pour amener et déposer devant la prison. Et donc, du coup, même les prisonniers qui étaient là, qui étaient affamés, pendant leur séjour, les 15 jours de détention qu'ils ont fait là-bas, ont trouvé quand même un peu de l'argent parce qu'ils ont trouvé que c'est les prisonniers VIP. Donc, ils vont profiter de leur séjour, mais malheureusement, ça reste de la prison. Et après qu'on ait saisi les organisations internationales, par exemple, comme la CGT, la CSI Bruxelles, ces organisations ont interpellé le gouvernement. Et pendant la même période, il y avait la Conférence internationale du travail qui se tenait à Genève. Et nous avons saisi la Commission intersyndicale des normes qui a reçu une motion de censure de la représentation tchadienne, parce que pour entrer dans la grande salle des conférences, il faut avoir l'accréditation. Et l'accréditation dépend de la représentativité de toute délégation. Il faut qu'elle soit tripartite, qui est les représentants des travailleurs, du gouvernement et du patronat. Et lorsque le gouvernement tchadien est arrivé devant la salle de conférence, le temps pour eux de recevoir leur accréditation, la motion de censure qui a été portée par la CGT, le syndicat algérien, tunisien, camerounais et centrafricain, on leur a notifié la motion de censure. Et donc les camarades de la France et du Cameroun sont venus les trouver à la porte pour remettre au ministre de la fonction publique la motion de censure. Et donc du coup, ils n'ont pas intégré la salle de conférence et pendant les travaux des 20 quelques jours là, ils n'ont pas pu assister et ils sont rentrés bredouilles. Et quand ils étaient dans l'avion, le ministre de la Justice a appelé le président du tribunal qui a fixé la date d'audience de nos camarades. Ils ont été jugés et le même jour, la date d'audience a eu lieu le lendemain, ils ont été jugés et libérés le même jour. Et quand on les déportait à Korotoro, c'était les forces spéciales qui les avaient conduits dans le centre de détention. Parce qu'ils ont des véhicules qui sont vraiment adaptés, parce que c'est dans le désert. Ils ont des véhicules qui sont adaptés. Mais lorsqu'on les a libérés, puisque la prison est sans sécurité, hein, c'est juste une porte ouverte, mais tout en sachant que tu ne peux pas faire 1 kilomètre dans le désert, tu vas mourir en route. Donc personne ne peut s'évader. Donc du coup, c'est la population qui s'est mobilisée. Puisque les policiers qui les avaient amenés et qui ont dressé un checkpoint devant la prison ont quitté pour revenir en Djamena puisqu'ils étaient déjà libres. Mais ils devaient les ramener avec eux. Mais ils ont refusé et puis la population s'est mobilisée. Ils ont loué des véhicules et ils ont loué même les policiers pour leur payer de l'argent pour pouvoir escorter nos leaders là. Et puis ils nous ont appelés et puis nous on les a attendus en Djamena autour de 2h du matin. Ils sont entrés et puis les militaires avaient, puisque les populations avaient cotisé beaucoup d'argent, ils étaient presque 200 et chacun avait reçu environ 50 € chacun. Ils avaient la mission de déposer chacun des leaders chez lui. Et ils les ont déposés chacun à la maison et puis ils sont revenus. Donc imaginez quelqu'un qui va en prison et qui repart, qui va et qui revient. C'est une balade de santé, mais c'est toujours pour les citoyens parce que lorsque les gens sont au courant de ces répressions, normalement, ça devrait les décourager. Et c'est ce qui fait aussi notre force parce que les gens pensent que plus on répond aux besoins des populations, plus on a leur adhésion. Donc, du coup, ça permet plutôt de renforcer la compréhension de nos actions et d'avoir plus de personnes même lors de nos manifestations. Et maintenant, avec les élections, nous appelons au boycott. Mais hier, avant-hier, le président de transition a appelé nos leaders syndicaux à une trêve sociale parce qu'on a engagé une grève aussi de 2 mois. Il les a appelés à une trêve sociale parce qu'il veut bien organiser les élections et il faut qu'on lui donne l'accréditation nécessaire. Mais bon, cela ne se fera pas. Par rapport aux réfugiés soudanais, ce qui s'est passé au Soudan a pris naissance au Tchad. Et l'un des belligérants est soutenu directement par le Tchad. Et il est difficile pour nous aujourd'hui de dire que ce qui se passe au Soudan peut arriver aussi à notre État. Les Soudanais sont arrivés de la manière la plus inattendue. Mais les gens ont quand même attesté leur solidarité parce que les camps de réfugiés sont invivables. c'est vraiment invivable. Déjà que nous-mêmes, on fait face à des difficultés. Et les zones désertiques, il n'y a pas de maisons si bien construites parce que les maisons sont déjà en matériaux non durables, en matériaux locaux et sensibles au vent et au soleil, tout cela. Donc, ils ont été reçus par la population locale. Certaines familles leur ont ouvert leurs portes, mais ils sont tellement nombreux que même si on les renvoie dans toutes les familles tchadiennes, il y en aura un grand nombre qui va rester. L'intervention humanitaire vient, mais à compte-gouttes. Et lorsque l'intervention humanitaire vient, l'armée tchadienne, par exemple, a bloqué même un convoi humanitaire qui allait dans la localité au motif qu'il y avait des armes. Ils ont déchargé tout le matériel pour pouvoir fouiller. Entre-temps, il y avait des produits alimentaires, des denrées alimentaires qui périssaient. Et donc, ça, c'est des pertes. Ça demande une intervention énorme. Mais la solution, c'est de remettre la stabilité au Soudan. Mais qui va mettre la stabilité au Soudan? La France, elle est là. Elle est témoin de ce qui se passe. Pourquoi elle ne réagit pas? Pourquoi elle se tait? Pourquoi est-ce que la communauté internationale se tait sur ces exactions-là et que soutenir un dictateur comme le Mamadou Keïta là est important pour la France? Il y a des questions plus urgentes dans la région qui devraient plutôt susciter l'élan national. Mais bon, on espère vraiment que cela va se passer. Maintenant, avec le renvoi des militaires français au niveau du Sahel, nous, on aurait aimé que ce soit la même chose au Tchad. Mais nous n'avons pas atteint. Actuellement, quand tu circules dans les rues de N'Djamena, si tu comptes 10 personnes, tu vas trouver des militaires français. N'Djamena, les gens, les armes, ça circule la rue comme si c'était des médicaments comme ça. Et avec cette insécurité, nous, on craint plutôt qu'il y ait une escalade de la violence parce que si jamais il y a des affrontements entre les civils, ça va dépasser ce qui se passe actuellement au Soudan. Et il faut que le Tchad fasse de son mieux pour pouvoir résoudre nos problèmes internes pour ne pas que ce qui se passe dans la sous-région là nous affecte aussi. Parce qu'aujourd'hui, le Mali et le Niger, ils sont tranquilles. Mais les militaires sont revenus chez nous. Nous, on fait quoi d'eux? Et en plus, nous ne sommes pas un État en guerre. Quelle est la guerre qui se passe au Tchad pour nécessiter un déploiement aussi énorme des militaires français et que nos populations soient appelées à côtoyer les militaires au jour le jour? Et les bases militaires sont installées dans les champs, dans les zones de pâturage, dans les espaces agricoles, sur des terres habitables, et qui refusent, les militaires français refusent même que ces villageois-là accèdent à leur propre territoire. Mais c'est impensable. Et certaines personnes pensent que, par exemple, le sentiment anti-français qui est né dans la zone, c'est dû au fait qu'on ne veut pas de la France, des Français. C'est posé tout simplement de la mauvaise manière. Aujourd'hui, le sentiment anti-français qui est entre les Français et les Suisses, c'est quel type de sentiment français? Le sentiment anti-français entre les Français et les Allemands, il y en a. Mais c'est dû à quoi? On ne sait pas. Moi, je sais tout simplement qu'aujourd'hui, en France, la vie, elle est invivable. Les gens vont aussi chercher d'autres pays où ils peuvent travailler, aller à l'université ou bien faire les activités comme ils veulent. Donc, du coup, les gens pensent qu'ils sont envahis plutôt par les Français et ça pose des difficultés. Mais dans notre pays, nous, on n'a pas de problème avec les Français. Actuellement, il y a des personnes qui ont fui le Niger, mais des Français qui ont fui le Niger, mais d'autres sont restés là. C'est une question de politique. C'est de nos États dont nous demandons de remettre en cause les relations et demander plutôt que les citoyens que nous sommes puissent aller d'un coin à un autre de la manière la plus paisible. Et si aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez observé la manière avec laquelle les populations au Niger ont veillé devant l'ambassade de France pour demander le départ des bases militaires françaises, mais c'est de la manière la plus pacifique. Et aujourd'hui, les militaires, moi je dis toujours que les militaires ont récupéré cette tension sociale des citoyens nigériens ou maliens pour aujourd'hui s'accaparer et dire que c'est eux qui ont fait partir les militaires. D'une part, ils ont raison parce que leur arrivée a fait partir la France et leur arrivée a permis aussi, lorsque le Mali a rompu tous les accords de coopération avec la France, ça nous a permis de voir à quel point c'était une relation incestueuse et qu'il est urgent de mettre fin aux coopérations avec la France. Et donc, c'est également un avantage. Mais bon, l'agenda caché des militaires, ça reste un autre. Mais c'est une bonne chose qu'ils soient au départ des bases militaires françaises de ces trois pays-là. Il y a aussi une autre compréhension. Les gens disent, bon, la France va partir, mais après, c'est la Russie, c'est la Chine. Mais qu'est-ce que la Russie fait? Qu'est-ce que la Chine fait? Et qu'est-ce que la France fait? Après 103 années, qu'est-ce que la France a fait? Et qu'elle ne veut pas se faire substituer par une autre. C'est à nous de décider avec qui on coopère. Nous sommes quand même des pays, des citoyens épris de paix et de justice. Donc on doit coopérer avec qui on veut. Ce n'est pas parce qu'on demande le départ de la France qu'on va nous empêcher d'avoir des relations de coopération avec la Russie ou avec la Chine.
Bon, on pensait faire un troisième round de questions, mais tu as déjà répondu à la première question de ce round. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient poser des dernières questions? J'avais vu qu'il y a...
Pareil. Ma question, c'était justement sur...
Incroyable.
Sur la question de la Russie, parce que je sais qu'au Mali et au Burkina, quand les bases militaires ont été libérées par la France dans les deux semaines qui ont suivi, il y avait le groupe Wagner qui était là, une présence cachée de l'impérialisme russe. Et je sais que j'ai discuté l'an dernier avec un chercheur djiboutien qui me disait que les médias nationaux au Djibouti étaient payés en grande partie par la Russie pour financer le sentiment anti-français, pour libérer la place. Donc voilà, ma question c'était, quel sentiment vous avez par rapport à ça au chat sur le fait de ne pas vous faire avoir par un autre impérialiste en fait derrière, qui est planqué derrière, quoi.
Mais notre président, il est allé à... en Russie rencontrer Poutine et les gens ont pensé que la France est en train de le lâcher et qu'il fallait qu'il sollicite le soutien de Wagner pour pouvoir conquérir ou bien faire face à la France. Mais c'est un fils qui marche sur les pas de son père parce que son père également a diversifié ses partenariats. Il a coopéré avec les Russes, parce qu'à la veille de sa mort, il a signé des accords de coopération et de défense avec les Russes et il est décédé le lendemain. Et donc lui aussi, il va pour diversifier ses sources de revenus, mais au mépris des valeurs tchadiennes, parce que où se situe le peuple à ce niveau-là? C'est pourquoi je dis que les relations de coopération entre nos États se font de manière opaque. Si c'était dans l'intérêt des peuples, c'était des informations qui devraient être rendues, être publiques, qu'on devait trouver sur la facilement partout, ou si on cherchait, on pourrait avoir. Mais comme ce n'est pas dans nos intérêts, ils sont classifiés top secret, ou tout simplement on apprend, on nous donne l'information pour le besoin de la consommation, mais on ne nous donne pas l'information qui devrait plutôt orienter vers leur engagement ou bien leur prise de responsabilité sur un certain nombre de dérives.
Vous avez parlé des groupes politiques.
Donc vous avez parlé des groupes politiques armés qui sont toujours en présence dans le Tchad et en regardant un peu sur plusieurs sites d'infos, il semblerait qu'ils soient plus ou moins tous descendants du Frelinat. Et qu'est-ce qui reste vraiment actuellement du Frelinat et des idées plutôt marxistes de base qui semblerait avoir été émanées du mouvement initial? Parce que, si j'ai bien compris, le Frelinat s'est plutôt fracturé dans les années 70, notamment après la mort du coup d'Ibrahim Abacha, qui était un de ses fondateurs. Et ouais, qu'est-ce qu'il en reste vraiment aujourd'hui? Quels sont les mouvements actuels de résistance, alors armés ou non, mais on va dire plutôt armés, vu qu'on se concentre là-dessus, qui sont vraiment pas dans une sorte de recherche de pouvoir avant tout, mais dans une idée de libération populaire, quoi.
Mm-hmm. Merci. Je crois que c'est tout. Hein. Il y a plus d'autres questions ? Ben, je reprends à celle-là et puis je crois que c'est fait tard aussi, il faut libérer les gens. Ouais, les gens ont fini une longue journée, ils ont besoin aussi de se reposer. Ben, le Frolina, au départ, c'était un mouvement politico-militaire, mais nationaliste, qui a porté toutes les... qui se présentait comme le défenseur des causes les plus marginalisées et avait un programme politique social qui était fédérateur. Et ça a permis également qu'elle puisse rassembler toutes les forces vives tchadiennes autour du programme politique qu'elle avait mené. Mais malheureusement, il a été détourné par Abré pour pouvoir s'installer au pouvoir. Et dès que Abré a... Puisque c'est un grand nationaliste au départ, et dès qu'il a pris le pouvoir, il s'est d'abord retourné contre tous les fondateurs du Frolina qui sont allés en exil tous. Il y a un qui était professeur, qui était en exil ici en France. Il était professeur à l'université Paris-Dauphine. Maintenant, il est à la retraite. Il écrivait beaucoup dans le journal révolutionnaire. Et maintenant, il est à la retraite. Il est très fatigué aussi. Et il y a eu des précurseurs comme Ibni aussi qui ont porté le mouvement. Mais après, avec l'avènement du multipartisme, le Frolina s'est dissous parce que diviser pour mieux régner était la politique aussi de la dictature. Et c'était difficile pour un parti nationaliste comme celui de Ibni de se démarquer et fédérer tous les efforts. Donc finalement, avec le décès de Ibni, son assassinat, le mouvement a perdu ses lettres de noblesse et pour l'instant, c'est l'UST qui porte un peu les valeurs de ce Frolina là, parce que ça, les luttes sociales les plus élémentaires se retrouvent plus au niveau de l'UST, mais comme nous avons une structuration nationale et indépendante des syndicats des uns des autres, ça fait que c'est un peu compliqué pour le gouvernement de pouvoir casser la dynamique. Et on a plus de protection parce que les syndicats sont protégés par les conventions internationales. Et même si les lois nationales sont méprisées, on bénéficie de la protection des lois internationales et de la solidarité internationale qui nous protège dans les luttes sociales que nous portons. Et à côté de nous, il y a d'autres organisations avec lesquelles on se met en plateforme. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement a décidé de restreindre les collectifs, parce que avec cette capacité de mobilisation, on a ouvert un éventail de participation des autres organisations de la société civile puisque nous partageons la même cause. Chacun vient avec son drapeau, mais nous avons le même message qui reste celui de défendre les citoyens et citoyennes. Et donc, on travaille avec ces organisations-là qui ont en leur sein des mouvements, les mouvements des femmes, des jeunes, qui portent les questions qui sont en lien avec chacun son domaine. Et on essaie de faire ce qu'on peut pour faire entendre nos voix. Je crois que c'était...
Oui,
c'est terminé.
Oui, on va s'arrêter là. Alors, juste pour conclure, il y a un an, il y a un camarade de milice d'autodéfense... ukrainien, oui. qui nous a dit qu'il fallait arrêter d'essayer juste d'envoyer de l'aide aux pays en guerre sous les impérialismes, qu'il fallait écouter ce que les gens là-bas avaient à dire. Et là, on l'a écouté et il a eu raison. Donc, merci beaucoup de votre présence. Merci à Survie qui garde ces liens qui sont vraiment indispensables. Merci à la Maison de la Culture et de l'Amitié pour cet accueil. Et je pense que il y aura. Je pense que c'est qu'un début. Mais.
Excusez-moi, j'ai juste une question très importante que je voulais poser.
Après, on va faire le débat.
Mais ce serait très court. Hein.
Oui, tout à l'heure.
Voilà ma question.
Mais enfin, on peut prendre un moment informel après, c'est peut-être plus simple parce que nous, on veut tout remballer, ça va prendre un peu de temps.
On va libérer les gens et puis.
Un second. La première République noire. Parle et même pas survit. Et là, je suis furieux parce que qu'est-ce qu'on va faire pour le peuple haïtien alors qu'il n'y a qu'un pays en Afrique, c'est le Kenya, qui s'est proposé d'envoyer des forces de police là-bas. Pourquoi est-ce que les pays francophones ne proposent pas ça, d'autant plus qu'on a en commun la même langue et les
haïtiens. Ça sera le prochain débat.
Voilà.
Et c'est très bien, merci d'avoir posé cette question. L'occasion d'en parler, ça sera par exemple le 5 avril. On a un artiste performeur haïtien qui vient faire une performance sur une performance discussion débat sur Frantz Fanon, la négritude, le néocolonialisme, sur la situation de son pays. Donc c'est le 5 avril et c'est à la Maison Mimir au quartier de la Cruteneau. Donc vous êtes tous et toutes les bienvenus. Notez-vous la date et ça sera l'occasion de parler d'Haïti. Merci beaucoup, Kariom. Merci à tous et toutes.